Chapitre 13.
Avant l'investiture, Dennis McDonough, mon conseiller principal en politique étrangère pendant la campagne, qui serait bientôt mon directeur de la communication stratégique au Conseil de sécurité nationale, a insisté pour que je consacre une demi-heure à ce qu'il considérait comme une priorité de tout premier ordre. Il faut qu'on s'assure que vous fassiez un vrai salut impeccable. Dennis n'avait lui-même jamais servi dans l'armée, et pourtant, il y avait une rigueur dans ses mouvements, une précision et une concentration qui portaient certains à croire le contraire. Grand et anguleux, la mâchoire saillante, les yeux enfoncés, le cheveu grisonnant qui lui donnait l'air plus vieux que ses 39 ans, il avait grandi dans la petite ville de Stillwater, dans le Minnesota, au sein d'une modeste famille catholique irlandaise de 11 enfants. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il avait voyagé en Amérique latine et enseigné au lycée à Belize, puis il était rentré pour faire un master en affaires internationales et avait travaillé pour Tom Daschle, alors chef de file des démocrates au Sénat. En 2007, nous avions recruté Dennis pour qu'il soit mon attaché parlementaire spécialiste des affaires internationales et au fil de la campagne, il avait assumé de plus en plus de responsabilités, m'aidant à préparer les débats, à finaliser les dossiers de synthèse, organisant tous les aspects de ma tournée à l'étranger avant la convention, en joute permanente avec le groupe des journalistes accrédités qui étaient du voyage. Même dans une équipe composée uniquement de personnalités remarquables, Dennis se démarquait. Il était attentif aux moindres détails, se portait volontaire pour les tâches les plus ardues et rébarbatives, et personne ne travaillait plus dur que lui. Durant la campagne dans l'Iowa, il passait le peu de temps libre qu'il avait à faire du porte-à-porte. Il était de notoriété publique qu'il avait déneigé à l'appel chez certains habitants après une tempête particulièrement vigoureuse, dans l'espoir qu'ils m'apportent leur soutien lors du caucus. L'endurance et l'abnégation qui lui avaient permis, malgré sa taille moyenne, d'être sélectionné comme arrière défensif dans l'équipe de football universitaire, pouvait poser problème. J'ai dû un jour le renvoyer chez lui, après avoir appris qu'il avait travaillé 12 heures d'affilée à la Maison-Blanche alors qu'il avait la grippe. J'en suis venu à soupçonner une vocation presque religieuse derrière cette intensité, et si sa nature iconoclaste, ainsi qu'une adoration pour sa femme Carrie, l'avait tenu éloigné des ordres, il concevait son travail à la fois comme un service et comme un sacerdoce. Et voilà que, au rang des bonnes actions qu'il voulait accomplir ici-bas, Dennis s'était mis en tête de me préparer pour mon premier jour de commandant en chef. La veille de mon investiture, il avait invité deux militaires, dont Matt Flavin, qui avait servi dans la marine et qui serait mon attaché aux anciens combattants à la Maison-Blanche, dans le bureau de transition pour m'apprendre à faire correctement les pas. Ils avaient commencé par me montrer une série de photos de salut présidentiel antérieur n'ayant pas été à la hauteur. Poignets flottants, doigts recourbés, George W. Bush tentant d'exécuter le salut tout en tenant son chien sous le bras. Puis, ils avaient évalué mon propre geste, qui n'était manifestement pas brillant. « Le coude un peu plus à l'extérieur, monsieur le Président », a dit le premier. « Les doigts plus serrés, monsieur le Président », a dit l'autre. « La pointe des doigts doit arriver au sourcil. » Au bout d'une vingtaine de minutes, mes tuteurs ont fini par avoir l'air satisfaits. Après leur départ, je me suis tourné vers Dennis. « Y a-t-il encore autre chose qui chiffonne ?» l'ai-je taquiné. Dennis a secoué la tête, visiblement pas tout à fait convaincu. « Ce n'est pas que ça me chiffonne, monsieur le Président élu. Je veux juste qu'on soit prêt. »« Prêt à quoi ?» Dennis a souri. « Prêt à tout. » C'est un truisme de dire que la mission la plus importante du Président est d'assurer la sécurité du peuple américain. Selon votre inclination politique et votre mandat électoral, vous aurez peut-être le désir ardent de revitaliser l'éducation publique ou de rétablir la prière à l'école, de revaloriser le salaire minimum ou de briser le pouvoir des syndicats du secteur public. Mais que vous soyez républicain ou démocrate, ce qui doit être une préoccupation première pour le président, la source de tensions chroniques et incessantes qui s'imprègnent profondément en vous dès l'instant où vous êtes élu, c'est la conscience que la protection de tous dépend de vous. Votre approche de cette mission dépendra de la façon dont vous définissez les menaces pour la sécurité du pays. Que craignons-nous le plus? Est-ce l'éventualité d'une attaque nucléaire russe, ou qu'une faille bureaucratique ou un pépin dans le logiciel déclenche par inadvertance le lancement d'une de nos ogives? Est-ce un fanatique se faisant exploser dans un métro, ou l'État qui, sous prétexte de vous protéger des fanatiques, s'introduit dans votre boîte mail? Est-ce une pénurie d'essence, provoquée par un problème d'approvisionnement en pétrole venant de l'étranger, ou la montée des océans et la planète qui rôtit? Est-ce une famille d'immigrants en quête d'une vie meilleure qui entre clandestinement dans le pays, après avoir traversé un fleuve, ou une maladie contagieuse qui s'est développée à cause de la misère et de l'insuffisance des services publics dans un pays pauvre et s'insinue subrepticement dans nos foyers? Pendant la majeure partie du XXe siècle, pour la plupart des Américains, le danger dont nous devions nous prémunir et les raisons pour lesquelles nous devions nous en prémunir étaient assez limpides. Nous vivions avec l'éventualité d'être attaqués par une autre grande puissance, d'être pris dans un conflit entre grandes puissances ou de voir les intérêts vitaux de l'Amérique, tels que définis par les sages de Washington, menacés par quelques pouvoirs étrangers. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était les Soviétiques, la Chine communiste et leurs acolytes, réels ou perçus comme tels, qui cherchaient ostensiblement à dominer le monde et menaçaient notre mode de vie. Et puis, il y a eu des attentats orchestrés depuis le Moyen-Orient, tout d'abord à la périphérie de notre vision, effrayants mais gérables, jusqu'à ce que dans les tout premiers mois du nouveau millénaire, le spectacle de l'écroulement dans la poussière des tours jumelles concrétise nos pires peurs. J'ai grandi avec tant de ces peurs gravées en moi. À Hawaï, j'ai connu des familles ayant perdu des êtres chers à Pearl Harbor. Mon grand-père, son frère et le frère de ma grand-mère ont tous combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai été élevé dans la croyance que la guerre nucléaire était une possibilité bien réelle. À l'école primaire, j'ai assisté en 1972 aux retransmissions des Jeux Olympiques de Munich où des athlètes ont été massacrés par des hommes masqués. À l'université, j'ai écouté le journaliste Ted Koppel faire le décompte des jours où des Américains étaient retenus comme otages en Iran. Trop jeune pour avoir connu personnellement l'angoisse de la guerre du Vietnam, je n'avais pu que constater la probité et la modération de nos soldats pendant la guerre du Golfe, et comme la plupart des Américains, j'avais considéré nos opérations militaires en Afghanistan après le 11 septembre comme à la fois nécessaires et justes. Mais d'autres types de récits s'étaient aussi incrustés en moi, des histoires différentes mais pas contradictoires sur ce que l'Amérique signifiait pour ceux qui vivaient ailleurs dans le monde, le pouvoir symbolique d'un pays construit sur des idéaux de liberté. Je me revois à 7 ou 8 ans, assis par terre sur le carrelage frais de notre maison, dans les faubourgs de Jakarta, montrant avec fierté à mes copains un livre d'images de Honolulu, avec les grands immeubles, les lumières de la ville et les larges routes pavées. Je n'oublierai jamais l'émerveillement sur leurs visages, tandis que je répondais à leurs questions sur la vie en Amérique, leur expliquant que tout le monde devait aller à l'école, où l'on trouvait plein de livres, et qu'il n'y avait pas de mendiants parce que presque tout le monde avait un travail et de quoi manger. Plus tard, jeune homme, j'ai constaté le rôle que jouait ma mère, sous contrat avec des organisations comme l'Agence des États-Unis pour le Développement International, USAID, en aidant des femmes dans des villages retirés d'Asie à trouver des fonds, et la reconnaissance durable de ces femmes pour ces Américains qui, de l'autre côté de l'océan, se souciaient de leur détresse. Quand j'ai visité le Kenya pour la première fois, les membres de ma famille, dont je faisais la connaissance, m'ont expliqué combien ils admiraient la démocratie américaine et l'état de droit, qui contrastait, m'ont-ils dit, avec le tribalisme et la corruption qui minaient leur pays. Ces expériences m'ont appris à voir mon pays avec les yeux d'autrui. Cela me rappelait que j'avais de la chance d'être américain, que je ne devais pas considérer ces acquis comme allant de soi. J'ai constaté par moi-même le pouvoir que l'exemple exerçait sur les cœurs et les esprits des gens dans le monde entier. Mais cela s'accompagnait d'un enseignement corollaire. La conscience de ce que nous risquions lorsque nos actes n'étaient pas à la hauteur de notre image et de nos idéaux, de la colère et du ressentiment que cela pouvait générer, des dégâts occasionnés. Quand j'entendais les Indonésiens parler des centaines de milliers de personnes massacrées lors du coup d'État suspecté d'avoir été soutenu par la CIA, qui avait installé au pouvoir une dictature militaire en 1967, quand j'écoutais les militants écologistes d'Amérique latine expliquer en détail que les entreprises américaines souillaient leurs campagnes, ou que je compatissais avec mes amis américains d'origine indienne ou pakistanaise, racontant toutes les fois où ils avaient été arrêtés, au hasard, pour subir des fouilles dans les aéroports depuis le 11 septembre, je sentais faiblir les défenses de l'Amérique. Je voyais des lézardes dans la cuirasse qui, j'en étais sûr avec le temps, mettaient en péril la sécurité de notre pays. Cette double vision, ainsi que ma couleur de peau, me distinguait de mes prédécesseurs. Pour mes sympathisants, c'était une force déterminante en matière de politique étrangère, m'autorisant à accroître l'influence des États-Unis dans le monde et à anticiper des problèmes qui pourraient découler de stratégies irréfléchies. Pour mes détracteurs, c'était un gage de faiblesse, entraînant la possibilité que j'hésite à accorder la priorité aux intérêts américains en raison de mon manque de conviction, voire de mes loyautés partagées. Pour certains de mes compatriotes, c'était bien pire encore. Le fils d'un Africain noir avec un nom musulman et des idées socialistes, installé à la Maison-Blanche aux manettes de l'État américain. C'était précisément contre cela qu'il voulait être défendu. Quant aux hauts responsables à la sécurité nationale, tous se considéraient comme d'ardents internationalistes à un degré ou à un autre. Ils étaient convaincus que le leadership international américain était nécessaire pour que le monde continue de tendre vers le mieux et que notre influence se présentait sous diverses formes. Même les membres les plus réformistes de mon équipe, comme Dennis, n'avaient pas de scrupules quant à l'usage du hard power, la force dure, à l'encontre des terroristes, et se montraient dédaigneux vis-à-vis des critiques de gauche qui imputaient aux États-Unis les maux de la terre entière. Parallèlement, les plus va-t-en-guerre de mon équipe comprenaient l'importance de la diplomatie et estimaient que la mise en place de ce qu'on appelle le soft power, comme les programmes d'aide à l'étranger et d'échange étudiants, était un ingrédient essentiel d'une politique étrangère américaine efficace. C'était une question de dosage. Quelle importance accordions-nous aux populations au-delà de nos frontières et dans quelle mesure devions-nous nous soucier exclusivement de nos concitoyens? Dans quelle mesure notre sort était-il effectivement lié à celui des gens d'autres pays? Dans quelle mesure l'Amérique devait-elle s'attacher à des institutions multilatérales comme les Nations Unies et dans quelle mesure devions-nous faire cavalier seul dans la poursuite de nos propres intérêts? Devions-nous coopérer avec des gouvernements autoritaires qui contribuaient à contenir le chaos? Ou était-ce un meilleur calcul, à long terme, de miser sur les forces de la réforme démocratique? La position des membres de mon gouvernement sur ces questions n'était pas toujours prévisible, mais dans nos débats internes, je devinais un certain fossé générationnel. À l'exception de Susan Rice, ma jeune ambassadrice auprès des Nations Unies, tous mes hauts responsables à la sécurité nationale, les secrétaires Gates et Clinton, le directeur de la CIA Léon Panetta, les chefs d'état-major ainsi que mon conseiller à la sécurité nationale Jim Jones, et le directeur du renseignement national, Dennis Blair, étaient de jeunes adultes à l'époque où la guerre froide était à son paroxysme et ils avaient passé des décennies à fréquenter l'establishment de la sécurité nationale à Washington, un réseau dense dont les membres sont étroitement liés, artisans hier et aujourd'hui de la politique de la Maison-Blanche, parlementaires, universitaires, directeurs de groupes de réflexion, haut gradés du Pentagone, chroniqueurs, fournisseurs sous contrat avec l'armée et lobbyistes. Pour eux, une politique militaire responsable supposait de la continuité, de la prévisibilité et le refus de trop s'éloigner de la sagesse conventionnelle. C'est cette disposition d'esprit qui a conduit la plupart d'entre eux à soutenir l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Et si le désastre qui s'est ensuivi les a amenés à reconsidérer cette décision précise, ils n'étaient toujours pas enclins à se demander si l'approbation par les deux parties de la ruée en Irak n'était pas révélatrice de la nécessité d'une refonte des institutions veillant à la sécurité nationale de l'Amérique. Les plus jeunes de mon équipe, dont la majeure partie des membres du Conseil de sécurité nationale, voyaient les choses différemment. Pas moins patriotiques que leurs aînés, fortement marqués par les horreurs du 11 septembre et les images de prisonniers irakiens torturés par des militaires américains à Abu Ghraib, nombre d'entre eux avaient rejoint ma campagne justement parce que je souhaitais remettre en question les hypothèses qu'on désignait souvent comme « la règle du jeu selon Washington », qu'il s'agisse de notre opposition au Moyen-Orient, de notre attitude vis-à-vis de Cuba, de notre refus d'inviter nos ennemis à la table des négociations, de l'importance de restaurer des garde-fous dans le combat contre le terrorisme, de la protection des droits fondamentaux, de l'aide aux pays en développement et du changement climatique. Que ces velléités ne soient plus perçues comme des manifestations d'altruisme, mais comme des aspects centraux de notre sécurité nationale. Aucun de ces plus jeunes membres n'était un exalté, et il respectait le savoir institutionnel de ceux qui avaient une expérience approfondie des affaires étrangères. Mais ils estimaient ne pas avoir à s'excuser de souhaiter rompre avec certaines contraintes du passé pour améliorer les choses. Parfois, les frictions entre la nouvelle et l'ancienne garde au sein de mon équipe de politique étrangère arrivaient aux oreilles du grand public. Lorsque cela se produisait, les médias avaient tendance à attribuer ces dissensions à une impertinence juvénile dans mes rangs et à un défaut de compréhension fondamentale de la façon dont Washington fonctionnait. Ce n'était pas le cas. De fait, c'était précisément parce que des attachés comme Dennis savaient comment fonctionnait Washington, parce qu'ils avaient été témoins de la manière dont la bureaucratie des affaires étrangères pouvait ralentir, contrecarrer, enterrer, exécuter de travers les nouvelles directives d'un président, voire s'y opposer, que souvent, ils finissaient par entrer en confrontation avec le Pentagone, le département d'État et la CIA. Et en ce sens, j'étais personnellement la cause des conflits qui émergeaient au sein de notre équipe chargée des affaires étrangères. C'était une façon pour moi de gérer mes propres conflits intérieurs. Je m'imaginais sur la passerelle d'un porte-avions, convaincu que l'Amérique avait besoin d'adopter une nouvelle trajectoire, mais entièrement dépendant d'une équipe plus chevronnée et parfois sceptique lorsqu'il s'agissait d'effectuer ce changement, conscient qu'il y avait des limites aux capacités du vaisseau et qu'un changement de cap trop brutal pouvait conduire à la catastrophe. Les enjeux étaient très importants, notamment dans le domaine de la sécurité nationale, et je commençais à me rendre compte que diriger, c'était bien plus que mettre en œuvre une stratégie éclairée. Les traditions et les rites comptaient, les symboles et le protocole comptaient, le langage du corps comptait. Je me suis donc entraîné à exécuter mon salut. Chaque matin, au cours de ma présidence, un classeur en cuir m'attendait sur la table du petit-déjeuner. Michel l'appelait « le livre de la mort, de la destruction et des choses horribles ». Il était désigné officiellement comme la synthèse quotidienne du président. Top secret, d'une longueur de 10 à 15 pages en général, et préparé d'un jour sur l'autre par la CIA, en collaboration avec d'autres agences du renseignement, la synthèse devait fournir au président un résumé des événements dans le monde, assorti d'une analyse des services du renseignement, en particulier sur tout ce qui pouvait affecter la sécurité nationale américaine. Tel jour, je pouvais être informé de l'existence de cellules terroristes en Somalie, de troubles en Irak, ou du fait que les Chinois ou les Russes se dotaient d'armes d'un nouveau type. Presque systématiquement, il était fait mention de possibles attentats. Parfois, les sources étaient vagues, peu étayées, et à ce stade, il n'y avait pas vraiment lieu d'intervenir. Une forme de diligence raisonnable de la part de la communauté du renseignement, visant à éviter les critiques qui avaient abondé après le 11 septembre. La plupart du temps, ce que je lisais dans le briefing n'appelait pas de réaction immédiate. L'objectif était d'avoir une idée au jour le jour des perturbations dans le monde, des glissements mineurs et majeurs, parfois à peine perceptibles, qui menaçaient de bouleverser les équilibres que nous tentions de préserver. Après avoir lu la synthèse, je descendais dans le bureau ovale pour une restitution en direct de ce que je venais de lire, en présence des membres du Conseil de sécurité nationale et du renseignement national, et nous passions en revue les points qui nous paraissaient urgents. Les hommes chargés de ces exposés, Jim Jones et Dennis Blair, étaient d'anciens gradés 4 étoiles que j'avais rencontrés à l'époque où j'étais au Sénat. Jones avait été commandant des forces des États-Unis en Europe, tandis que Blair avait récemment pris sa retraite de son poste d'amiral en charge du commandement Pacifique. Ils avaient le physique de l'emploi, grands, athlétiques, cheveux grisonnants, coupés en brosse, le port d'une droiture impeccable, et si je les avais initialement consultés sur des questions militaires, l'un et l'autre s'enorgueillissaient d'avoir une vue globale sur nos priorités en matière de sécurité nationale. Jones, par exemple, s'intéressait de très près à l'Afrique et au Moyen-Orient, et après sa retraite de l'armée, il avait été impliqué dans les efforts de sécurité en Cisjordanie et à Gaza. Blair avait beaucoup écrit sur le rôle de la diplomatie économique et culturelle face à une Chine en pleine ascension. Aussi faisait-il venir de temps en temps des analystes et des experts au briefing du matin, afin de m'aider à avoir une vision d'ensemble et à saisir les enjeux sur le long terme. Les implications de la croissance économique dans la démocratisation de l'Afrique subsaharienne ou l'effet possible du changement climatique sur les futurs conflits régionaux. Plus souvent, toutefois, nos discussions du matin portaient sur des désordres présents ou qui menaçaient. Coup d'État, armes nucléaires, manifestations violentes et surtout guerre. La guerre en Afghanistan qui serait bientôt la plus longue de l'histoire américaine. La guerre en Irak, où près de 150 000 soldats étaient encore déployés. La guerre contre Al-Qaïda, qui recrutait activement de nouveaux convertis, créant un réseau d'affiliés et fomentant des attaques inspirées de l'idéologie d'Oussama Ben Laden. Les coûts cumulés de ce que le gouvernement Bush et les médias décrivaient comme une unique et globale guerre contre le terrorisme étaient ahurissants. Près de 1 000 milliards de dollars dépensés, plus de 3 000 soldats américains tués, 10 fois plus de blessés. Le nombre de victimes civiles irakiennes et afghanes était encore supérieur. La campagne d'Irak en particulier avait divisé le pays et mis à rude épreuve certaines alliances. Dans le même temps, le recours à des restitutions extraordinaires, à des sites secrets, au waterboarding, simulation de noyade, à la détention à durée indéterminée sans procès à Guantanamo et à la surveillance accrue dans le cadre de la lutte plus vaste contre le terrorisme avait amené l'opinion publique aux États-Unis et ailleurs à douter de l'attachement de notre nation à la primauté du droit. J'avais exprimé durant la campagne des positions qui me semblaient claires sur ces questions, mais je voyais alors tout cela d'un peu loin. J'avais à présent sous mon commandement des centaines de milliers de soldats et une infrastructure de sécurité nationale tentaculaire. Tout attentat aurait désormais lieu sous ma surveillance. Toutes les vies américaines perdues ou compromises, dans le pays ou à l'étranger, pèseraient uniquement sur ma conscience. C'était mes guerres maintenant. Mon objectif immédiat était de revoir chaque aspect de notre stratégie militaire de manière à avoir une approche réfléchie de ce qui se passerait ensuite. Grâce à l'accord sur le statut des forces que le président Bush et le premier ministre Al-Maliki avaient signé environ un mois avant mon entrée en fonction, les grandes lignes d'un retrait d'Irak des troupes américaines avaient été esquissées. Les forces de combat américaines devaient avoir quitté les villes et les villages irakiens à la fin du mois de juin 2009, et toutes les forces américaines seraient sorties du pays à la fin de l'année 2011. La seule question qui demeurait était de savoir si nous pouvions ou devions agir plus vite, sans attendre ces dates butoirs. Pendant la campagne, je m'étais engagé à un retrait des forces de combat américaines d'Irak dans un délai de 16 mois à partir de mon entrée en fonction. Mais après l'élection, j'avais signifié à Bob Gates que j'étais prêt à faire preuve de souplesse concernant le rythme du retrait, tant que nous restions dans le cadre de l'accord sur le statut des forces. Une façon de reconnaître que clore une guerre était une affaire imprécise, que les commandants qui étaient au fait des combats méritaient quelques déférences lorsqu'il s'agissait de questions tactiques, et qu'un nouveau président ne pouvait pas si simplement déchirer les accords conclus par son prédécesseur. En février, Gates et le général Ray Odierno, notre commandant nouvellement installé en Irak, m'ont présenté un plan prévoyant le retrait des troupes américaines d'Irak en 19 mois, 3 mois de plus que ce que j'avais proposé pendant la campagne, mais 4 mois de moins que ce que demandaient les chefs militaires. Le projet prévoyait également de laisser une force résiduelle de 50 000 à 55 000 militaires n'ayant pas vocation à combattre, qui resterait sur place jusque fin 2011, afin de former et d'épauler les militaires irakiens. Certains à la Maison-Blanche se sont montrés dubitatifs sur la nécessité de ces 3 mois supplémentaires et de l'importante force résiduelle, ne manquant pas de me rappeler que les démocrates au Congrès et le peuple américain étaient très favorables à une sortie accélérée et non pas retardée. J'ai néanmoins approuvé le projet d'Odierno et effectué le voyage jusqu'à Camp Lejeune, en Caroline du Nord, pour annoncer ma décision devant plusieurs milliers de Marines enthousiastes. Autant j'avais été fermement opposé à la décision initiale d'envahir l'Irak, autant j'estimais qu'aujourd'hui, les États-Unis avaient un intérêt à la fois stratégique et humanitaire à la stabilité de l'Irak. Le retrait des troupes de combat des centres urbains étant désormais prévu tout juste 5 mois plus tard, conformément à l'accord sur le statut des forces, l'exposition de nos soldats à de violents affrontements, aux tirs de snipers et aux engins explosifs improvisés, serait fortement réduite pendant la phase finale de notre retrait. Et compte tenu de la grande vulnérabilité du nouvel État irakien, de ses forces de sécurité pour le moins fragiles, de la présence encore active d'Al-Qaïda en Irak et des niveaux vertigineux d'hostilité sectaire qui grésillaient à l'intérieur du pays, il semblait plutôt judicieux d'utiliser la présence des forces résiduelles comme une sorte de police d'assurance contre un retour au chaos. Une fois qu'on sera parti, ai-je dit à Ram en lui expliquant ma décision, ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on soit obligé d'y retourner.